Radio Kapi.
Se rendre compte de l'évolution des travaux de réfection de la route nationale numéro 1, coupée au niveau de Matadi Kibala, le couple présidentiel était sur place hier. Félix-Antoine Tshisekedi a pris langue avec les responsables de l'agence congolaise de grands travaux et de l'office de route pour que le trafic soit restauré urgemment. Entre-temps, cette coupure de la route nationale numéro 1 pénalise les agences de voyage et les installations portuaires à Matadi. Ces structures enregistrent déjà des manques à gagner énormes, nous dira Nana Purush Mambu dans ce journal. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Augustin Ngabu Bassani, directeur de la coopérative Blokawa, qui signifie simplement « meilleur café » implanté à Bandroma dans les territoires de Djougouan-Ituri. Il va nous parler de la production de café par saison dans son entreprise, des difficultés ainsi que des projets à venir. Voilà tout pour les sommets. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Le couple présidentiel a visité hier samedi le site endommagé par la pluie de la route nationale numéro 1 après Matadi Kibala. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec les responsables de services techniques, notamment la CGT, l'Agence congolaise de grands travaux et l'Office des routes. Il a voulu se rendre compte de l'évolution des travaux afin de restaurer le trafic de nombreux véhicules bloqués de part et d'autre du ravin qui a coupé la route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi. Avant que le couple présidentiel ne quitte les lieux, les premiers camions pu traverser quand bien même les travaux se poursuivaient. Félix-Antoine Tshisekedi et son épouse se sont également rendus au poste de haute tension de la SNEL à Founa, inondé par les eaux de pluie, privant ainsi plusieurs quartiers de la ville d'énergie électrique. Et puis notez que l'Agence congolaise des grands travaux informe les usagers de l'axe Kinshasa-Matadi que le trafic est partiellement ouvert depuis l'après-midi de ce samedi 17 décembre après la visite de chantier par le chef de l'État. Alors, pour permettre la poursuite des travaux, pour qu'à terme l'ouverture de la route soit complète, un communiqué émanant de l'agence fait état d'un programme de trafic sur cette route de la manière suivante. À partir d'hier 15h jusqu'à ce dimanche à 12h, le passage est réservé uniquement aux véhicules en provenance de la province du Congo central à destination de la ville de Kinshasa. Et puis, à partir de 12h ce dimanche jusqu'à 18h, le passage sera uniquement réservé aux véhicules en provenance de Kinshasa pour le Congo central. Enfin, de 18h à 6h, la route sera fermée pour la poursuite des travaux. L'Agence congolaise de grands travaux encourage les usagers à observer scrupuleusement cette organisation pour garantir une harmonie dans les trafics et dans l'évolution des travaux. Pendant 7 ans, l'interruption du trafic sur la nationale numéro 1 entre la ville de Kinshasa et le Congo central, à la suite des dégâts causés par la dernière pluie diluvienne sur le tronçon compris entre les quartiers sans fil et Matadi Mayo, pénalise les agences de voyage et les installations portuaires à Matadi. D'après Donna Chabani, chargée de l'administration et finances à Trans-Rénové, cette situation constitue un énorme manque à gagner, car non seulement l'agence ne fait plus de recettes, mais les voyageurs qui avaient payé leur ticket réclament remboursement. Toutes les agences ne jurent que sur l'accélération des travaux de réhabilitation du tronçon coupé. Depuis Matadi, Nana Purush Mambu nous en dit plus.
Depuis que la liaison entre Kinshasa et le Congo central est coupée il y a 4 jours, les activités sont à l'arrêt dans plusieurs agences de voyage de Matadi, de la ligne Matadi-Kinshasa. Chez Trans-Rénové par exemple, cette situation affecte non seulement l'agence, mais également tous ceux dont les activités gravitent autour de l'organisation des voyages. Parmi ces derniers se trouvent les manutentionnaires, les vendeurs de pain et charcuterie, les vendeurs de crédits de communication, y compris même les prédicateurs de l'évangile dans le bus lors des voyages. Donna Chabani, chargée de l'administration et finances chez Trans-Rénové, l'affirme.
Les gens qui ont déjà acheté les billets viennent récupérer leur argent. Par jour, on a déjà l'habitude de faire les entrées de plus ou moins de 800-900 $. Maintenant, faut déjà presque une semaine on travaille. Donc, il y a vraiment manque à gagner. Il y a des celles-là qui vendent les choses dans le bus, soit affectées par ces drames.
Au niveau du port international de Matadi et celui de MGT, cet arrêt du trafic est à la base de l'engorgement des conteneurs. Il impacte aussi directement sur les délais d'acheminement des conteneurs pleins et les retours des conteneurs vides, occasionnant ainsi des frais d'occupation d'espace dans les deux ports. Ajouté à cela, les frais relatifs à la surestarie perçus par les armateurs. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Et puis, la situation sociale de la ville de Kinshasa avec les morts et autres dégâts enregistrés au cours des dernières pluies était au menu de la rencontre vendredi entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et les députés nationaux élus de la capitale. Ils ont échangé sur les causes de ces dégâts et comment les éviter à l'avenir. L'essentiel de cette rencontre avec Raphaël Kibuika, président du caucus des députés nationaux élus de Kinshasa. Un extrait choisi par Babel Pongo Massimango.
Le gouverneur nous a expliqué les dispositions qui ont été prises pour l'enterrement des victimes. Il a aussi évoqué certaines questions liées, n'est-ce pas, aux conséquences que nous vivons ici suite au surpeuplement de la ville de Kinshasa. Il nous a aussi communiqué les zones sur lesquelles la population kinoise a bâti, n'est-ce pas, ces maisons, qui sont des zones qui ne peuvent pas recevoir de construction. Il nous a expliqué la situation que connaît la ville de Kinshasa dans l'ensemble. Comme nous serons reçus par le Premier ministre, nous ferons ces plaidoyers pour demander au gouvernement central de pouvoir respecter ses engagements vis-à-vis de la ville. L'on nous apprend que la ville de Kinshasa ne reçoit pas depuis 6 mois l'enveloppe qui lui est due pour l'assainissement. Alors que le commun des mortels sait que les éboueurs travaillent chaque nuit, mais curieusement, nous apprenons qu'ils ne sont pas payés parce que le gouvernement central n'arrive pas à honorer ses engagements. Nous allons aussi faire le plaidoyer pour toutes les questions que connaît la ville, de manière à ce que la ville qui nous héberge, qui est le siège des institutions, puisse refléter l'image d'une capitale digne.
Notez que le gouverneur les a aussi informés des dispositions prises pour l'organisation des obsèques des victimes de pluie. Ces députés devraient rencontrer hier samedi le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Au Nord Kivu, parlons de ces cris d'alarme du chef de la chefferie de Bwisha en territoire de Rutshuru. Il s'est dit très préoccupé par la situation difficile que traverse sa population qui a fui la guerre du M23 pour se réfugier dans les camps des déplacés de Kanyaruchinya, situés non loin de la ville de Goma en territoire de Nyiragongo. Dans ce site, c'est le nombre croissant des cas de décès dus au choléra. Selon Théo Moussekoura, président de ce site, en 2 jours seulement, soit vendredi et samedi, 6 personnes déplacées sont mortes de choléra et la situation s'empire. On écoute moi Mindeze Katurebe Jean-Baptiste, chef de la chefferie de Bwisha. Il s'exprime depuis Goma où il est en déplacement. Ses propos ont été recueillis par Bernardine Diambou.
C'est un message vraiment de courage, de compassion. C'est très difficile ce qu'il traverse. Ça dure depuis plusieurs mois. Parfois, il quittait, il revenait à Rugari. Ce que vous avez là, c'est essentiellement le groupement de Rugari et de Gisigari qui a fui les combats qui venaient de Rutshuru. Cette population souffre. Et donc nous avons un travail qui est peut-être pas visible, mais nous faisons un plaidoyer avec les communautés humanitaires, avec le ministère des Affaires sociales et humanitaires. Et nous-mêmes, nous travaillons déjà sur un plan de contingence lorsque les choses seront calmes pour savoir comment nous pourrions les assister lorsqu'ils vont revenir dans leur milieu respectif. Et donc c'est un lourd travail. Je leur demande encore un peu de patience. Il y a un gros travail sur le plan politique et diplomatique qui est en train de donner ses fruits. Il faut encore un peu de patience.
Pour rappel, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, a déclaré mercredi dernier l'épidémie de choléra au Nord Kivu et particulièrement dans les territoires de Nyiragongo. Enfin, un prix bref sur le terrain des opérations. Des combats ont opposé toute la journée d'hier samedi l'armée congolaise aux rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru. C'est précisément sur l'axe Bishusha-Tongo, chefferie de Bwitu. Certaines sources militaires contactées dans la région affirment avoir délogé les rebelles des environs de Bwiza, groupement de Bishusha, avant de les repousser jusqu'au-delà de Murimbi, en groupement de Tongo. Ces sources ne fournissent cependant aucun bilan de cette bataille. Les sources civiles à Kichanga ajoutent qu'au moins 4 groupes armés locaux seraient aussi impliqués dans ces affrontements qui ont commencé depuis vendredi dans cette zone. Toujours au Nord Kivu, remise ce week-end d'ouvrages construits et réhabilités par la MONUSCO à travers sa police. Il s'agit notamment d'une salle de réunion et d'installation sanitaire, un projet exécuté par la coopérative des femmes vivant autour des sites miniers Kofevam. Gabriel Wamenya nous dépeint ces bâtiments dans ce reportage.
Il s'agit d'une bâtisse longue de 9 mètres sur 7 et d'une hauteur d'environ 6 mètres qui servira désormais de salle de conférence et à autres activités de cette unité spéciale de la police. Peint entièrement de couleurs blanches à l'intérieur et à l'extérieur, l'ouvrage est orné sur sa façade extérieure d'une bannière bleue répondant aux couleurs et aux symboles de la police nationale congolaise, estimée à $26 000. standard américain, les travaux de cet édifice destiné à la police technique et scientifique étaient jumelés à ceux de la réhabilitation d'au moins 7 toilettes et des douches pour la police de protection de l'enfant. Ici, le commissaire provincial de la police qui a personnellement reçu ces ouvrages parle des retombées positives qui caractérisent les partenariats existants entre la police de la MONUSCO et la police nationale congolaise. Le général Abba Van Hang.
Vous nous appuyez beaucoup pour améliorer les conditions de vie et de travail de la police et pour une bonne présence auprès de la population. Que la population comprenne cela.
Rappelons que d'autres actions et projets d'appui à la police nationale congolaise sont envisagés par la MONUSCO à travers son unité de police pour rendre celle-ci plus professionnelle dans sa mission et répondre efficacement aux attentes de la population. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Autre nouvelle, Forum sur le renforcement de la cohésion sociale dans la région centre de la République démocratique du Congo y regroupe les ressortissants de l'espace Grand Kasaï qui compte 5 provinces. Ces derniers se sont retrouvés hier samedi à Kinshasa pour échanger sur les stratégies devant favoriser le développement du centre de la République démocratique du Congo. Reportage Richard Junior Kamunga.
Initié par la maison civile du chef de l'État, ce forum a réuni les personnalités représentatives du centre de la République démocratique du Congo. C'est notamment les députés nationaux, sénateurs, ministres, mandataires du portefeuille, scientifiques et autres leaders d'opinion. Ils ont échangé sur l'avenir et le développement durable de l'espace Grand Kasaï. Pour Dr. Binyuno Mite Onyenge, chef de la maison civile du chef de l'État, ce cadre est un espace de discussion et d'échange qui permettra de procéder à une analyse des risques qui pourraient hypothéquer le développement et l'unité de l'espace Kasaï. Pour la stabilité et la paix de l'Est du pays, une déclaration solennelle de soutien au FRDC et au commandant suprême de l'armée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été lue à cet effet par Madame Léonie Kandolo.
Des millions de morts et des souffrances innommables infligées à notre peuple au Nord Kivu, au Sud Kivu et dans l'Ituri, par des hordes de terroristes entretenus par Paul Kagame et son régime assoiffé du sang des Congolais et attiré par les ressources du Congo. L'indifférence de la communauté internationale.
Un comité de suivi de tout projet avec trois structures sera mis en place au niveau national et provincial dans les 5 provinces.
Entre-temps, au Kwilu, l'Union des ressortissants de Bandundu, Ireband, une ASBL qui prône le développement de cette ville, appuie le processus de réinsertion sociale d'un groupe de jeunes Kuluna du quartier Malebo, entamé depuis un certain temps par l'abbé Augustin Maimona, curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire. Jeudi 15 décembre dernier, il leur a apporté 2 ballots d'habits pour leur propriété et pour leur permettre d'abandonner définitivement leur vie de Kuluna et de demeurer dans les activités de l'église. Le point avec Irène Mboma.
Accompagné de la notabilité de la ville de Bandundu, le président national de l'Union des ressortissants de Bandundu, Ireband, a effectué jeudi une descente à la paroisse Notre-Dame des Rosaires à Malebo. Sur place, Eric Kinzambi a rencontré et sensibilisé les jeunes, autrefois inciviques appelés Kuluna, qui sont maintenant encadrés par les curés de la dite paroisse, l'abbé Augustin Maimona, pour leur réinsertion sociale. À l'occasion, cet acteur du développement qui entend appuyer ce processus de réinsertion sociale de ces jeunes, leur a offert un lot important de vêtements.
Nous avions donné ce que nous avons pour accompagner, pour appuyer les efforts de M. l'abbé. Nous avions amené 2 ballons d'habits pour donner à ces Kuluna qui étaient dans la rue, mais maintenant ils sont dans la paroisse, ils sont en train de faire des petits travaux. Mais la paroisse seule ne peut pas donner tous les moyens à ses enfants. Pour les encourager à rester dans cette vie de la paroisse, d'oublier leur vie passée, que nous avons amené quelques habits.
Tout en manifestant leur gratitude envers l'Irébante, ces jeunes ont opté pour la paix. Au nom de notre abbé, nous jeunes de Malebo, nous avons opté pour la paix entre nous. Moi, j'étais le leader. Nous avons abandonné le banditisme. Et pour sa part, l'abbé Augustin Maimona a également remercié l'Irébande. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. Une santé est une stratégie qui vise à combattre les maladies infectieuses émergentes et réémergentes à caractère zoonotique. Pendant 2 jours, les acteurs des secteurs de l'environnement, pêche, élevage et de la santé publique ont été formés sur cette stratégie au cours d'un atelier à Kindu. Florence Kizalunga, reportage.
Selon les organisateurs de cet atelier de formation, la stratégie InSanté a été mise sur pied au niveau mondial pour promouvoir la santé publique en mettant l'homme au centre de toute action qui tend à promouvoir la santé. Les organisateurs de ces assises se félicitent d'avoir renforcé les capacités des apprenants. Teddy Ntendai est de la coordination nationale InSanté.
À l'issue de ces deux jours de formation, je suis très heureux de vous dire qu'effectivement, le niveau de renforcement de capacités de membres du comité provincial, une santé de maniement a été renforcée. C'est vraiment une joie qui nous anime, étant donné que le résultat le plus attendu était ce moment.
De leur côté, les participants qualifient ces enseignements de bonnes nouvelles pour le maniement. Moïse Osomba est l'inspecteur provincial de pêche et élevage.
On voudrait que le secteur de l'environnement, de pêche et élevage, de la santé publique, qui sont des acteurs clés de la structure Une Santé, avec l'appui d'autres secteurs à la promotion de la santé dans sa globalité, arrivent à promouvoir la santé publique au Maniema.
Pour permettre à la province d'asseoir le processus Une Santé, on attend de l'autorité provinciale la signature de l'arrêté portant mise en place du comité provincial de cette structure. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et puis le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a inauguré vendredi ici à Kinshasa le bâtiment qui abritera désormais le centre des opérations d'urgence polio. Ce bâtiment à Pimpa Neuf, qui porte le nom du docteur Jean-Jacques Mbungani, abritera les activités de mise en œuvre des préventions et des ripostes à la poliomyélite en République démocratique du Congo. Il a été construit en 3 mois grâce à l'appui financier de la Fondation Bill et Belinda Gates. Le ministre Jean-Jacques Mbungani revient ici sur l'importance de cette bâtisse ainsi que sur les différents services qu'elle contient. Ces propos ont été recueillis par Jean-Pierre Elali Ikoko.
Le programme élargi de vaccination se trouverait confronté à la difficulté de rendre disponible un espace bâtiment pour permettre à l'équipe de coupe de travailler dans un environnement confortable. Ce bâtiment, baptisé en mon nom, offre plusieurs pièces, dont 2 grandes salles de réunion. La salle Pierre Condolo Wenyé, en la mémoire de l'un des pionniers de la lutte contre la polio, qui nous a malheureusement quittés le 11 mai de cette année. Et la salle Kamel Senoussi, qui a su mobiliser les ressources nécessaires afin d'accompagner la RDC dans son infatigable lutte contre la polio. L'acquisition de ces bâtiments permet au pays d'offrir un cadre convenable de travail à différents membres de l'initiative mondiale de l'éradication de la polio et qui, plus est, permettra au PEV d'élargir son espace de travail.
Actualité internationale.
International, 9 personnes ont été condamnées vendredi 16 décembre à Madagascar dans l'affaire du trafic de 73 kilos d'or saisis en Afrique du Sud, dont 3 malgaches par contumace. En janvier 2021, ils avaient été arrêtés lors d'un transit aérien à Johannesburg en direction de Dubaï en possession de lingots d'or. Ils écopent d'une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende avec 2 autres condamnés d'un peu plus de 52 milliards d'ariary, environ 11 millions d'euros.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition du journal le directeur général de la coopérative Blokawa, qui signifie simplement meilleur café implanté dans le territoire de Djougou. Augustin Gaboubassani va nous parler de la production de café par saison dans son entreprise, les difficultés ainsi que les projets à venir. Il s'entretient ici avec Marc Marofimbo. Suivez.
Monsieur Augustin Gaboubassani, bonjour.
Bonjour Marc Marofimbo.
Quel est l'état des lieux que vous faites de la production de café chez vous à Blokawa?
Aujourd'hui, à la fin de notre étude, nous avions découvert que Djougou est une entité qui produit suffisamment de café et notre statistique nous a amené à obtenir au moins une estimation de plus ou moins 250 tonnes de café cerise que Djougou devrait produire. C'est ça un peu l'état des lieux de la production dans la partie nord-est des territoires de Djougou. C'est ça ce qui pouvait aussi nous amener à comprendre que Djougou Nord est capable de fournir plus ou moins 3 à 4 tonnes de café marchand exportable.
Et alors, quelle est votre zone de couverture avec la production de café chez vous, Blokawa?
Pour le moment, notre zone de couverture, c'est seulement la partie nord de Djougou. Et là, principalement, nous couvrons le secteur de Walindoupiti et nous prenons aussi la clave Ndo-Kebou sur le flanc des chaînes de Moblé.
Alors, quels sont les mécanismes de travail que vous mettez en place avec les producteurs?
Depuis que nous sommes coopératives, parce que nous devons travailler avec les producteurs, ces producteurs qui sont sur terrain, qui jadis travaillaient individuellement, nous avons pris la précaution de les structurer en sections. Et au niveau des sections, nous avons implanté des micro-stations pour les traitements des cafés. Et c'est autour de ça que nous réunissons les producteurs qui ont adhéré à notre vision. Et ils travaillent à leur niveau. Ils peuvent collecter des cerises sous notre supervision et les traiter dans leur micro-station de lavage. Et une fois traités, ils doivent les entreposer d'abord à leur niveau. Et à la fin, c'est à nous maintenant de ramener ce café dans notre entrepôt central. Et de là, nous devons maintenant lancer les mécanismes de commercialisation, chercher les acheteurs et consorts. En même temps, pour aussi couvrir leur période de temps mort, on est en train d'envisager la diversification des cultures avec nos producteurs pour qu'à un moment donné, on atteigne quand même une couverture totale dans les secteurs économiques au niveau rural.
Comment ça se passe cette fois-ci avec l'achat et exportation de café de Blokawa?
Généralement, après avoir réuni les cafés parches, on doit l'usiner. Une fois usiné, on doit maintenant l'emballer et constituer le lot. Et pour ce lot, il faut chercher maintenant un acheteur à l'extérieur. Nous sommes en train d'être accompagnés par les partenaires privilégiés Ricolto. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs défis. D'abord, le premier défi, c'était le défi sécuritaire, qui a essayé de bloquer à un moment donné la bonne marche de notre entreprise depuis le début. Et à cause de ces défis sécuritaires, la plupart de nos producteurs avaient abandonné leur plantation sans entretien. Nous avons aussi quelquefois les défis au niveau des fonds de commercialisation que nous devons négocier par ici par là auprès des créditeurs anonymes. Ça peut nous arriver soit en retard. Et si ça nous arrive en retard, ça trouve qu'une bonne partie des cerises aurait déjà été sacrifiée à la merci de nos intermédiaires qui sont ici et qui exploitent nos producteurs de leur manière. Quand les fonds vont venir, ça trouve que nous sommes en retard presque à la fin de notre saison. Ça pose un peu de problème.
C'est quoi les projets à venir ou la perspective de votre projet au sein de Blokawa Coopérative?
Oui, actuellement la vision de la coopérative, c'est redorer cette image de Djougou à travers le secteur café. D'abord, produire le café de spécialité qui doit être exportable au nord des territoires de Djougou, pour faire connaître aussi les territoires de Djougou et ensuite pour donner la fierté à la province de l'Ituri. Ça, c'est notre objectif principal. Deuxième, c'est que nous cherchons à nous extendre sur tous les territoires de Djougou, là où il y a d'abord les cafés, afin de couvrir intégralement et de structurer intégralement les producteurs de café. Alors, troisième, c'est chercher à montrer aux producteurs de café une chaîne de valeur. Depuis les producteurs jusqu'aux consommateurs, pour dire que chacun doit se retrouver dans cette chaîne de valeur avec le café qui est produit à territoire de Djougou.
Monsieur Augustin Ngabubasani, je rappelle que vous êtes le directeur général de la coopérative Blokawa installée ici à Kwandruma du territoire de Djougou. Nous vous disons merci.
Merci infiniment.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Polydor Basunga. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination et la supervision de Pelé Kipela Mondo. Merci également à vous pour votre particulière attention.